Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus 106.6. Alors l'émission intersyndicale aujourd'hui avec des camarades de la CGT et de Suétudiants. Alors moi c'est Yvain pour Suétudiants.
Moi c'est Tristan pour Suétudiants.
C'est Jean-Marc pour la CGT.
Et oui, et aujourd'hui on va s'amuser un petit peu de parler d'être thème d'actualité très réjouissant pour le mouvement social en général et pour les militants que nous sommes. Les élections régionales, on est pile d'entre deux tours et le moins qu'on puisse dire c'est que ça sent pas très bon, à vrai dire.
On entend bientôt approcher le bruit des bottes.
Ouais.
Oui, le bruit des bottes, oui, dans la région en tout cas, assurément, mais partout ailleurs également. Ouais. Ça sera l'occasion, mais je pense qu'on va, c'est un peu le sujet là maintenant, de rappeler la position claire et nette du mouvement syndical vis-à-vis de l'extrême droite en général et du Front National évidemment en particulier, si tant est qu'il rassemble la totalité de l'extrême droite. Et ça sera l'occasion. En tout cas, pour la CGT, je rappellerai que nous sommes une des rares organisations de travailleurs, en tout cas syndicales, à avoir exclu un secrétaire général d'une organisation CGT de la CGT parce qu'il était présent sur une liste Front National. Ça se passait dans l'Est, qui est aujourd'hui menacé effectivement de basculer à l'extrême droite.
Comme le Nord et le Sud, ouais.
Oui, oui, voilà. Et c'était un point qui avait été très, très discuté. Mais enfin, on avait parlé de la CGT à ce moment-là et c'était essentiel et très important de le faire et de le faire à ce moment-là. Et je lirai quelques extraits du communiqué confédéral sur le résultat de dimanche au niveau national parce que je pense qu'il rappelle deux, trois choses. Mais j'imagine que côté de Sud, vous avez la même chose à dire.
Ah, au niveau national comme au niveau local, à vrai dire, parce qu'au niveau local, c'est un peu particulier.
C'est clair. Nous, nos deux syndicats, la CGT et Solidaire, font partie du collectif antifasciste VISA, Vigilance Intersyndicale Antifasciste, qui ont publié énormément de choses sur le FN dans toutes ces régions. Et en ce moment, on est en train de tracter un tract de l'Union intersyndicale solidaire sur les mensonges du FN qui date de 2014, mais qui est toujours d'actualité. Et à la MDE, là, en ce moment, il y a une espèce d'assemblée générale avec des étudiants qui se regroupent pour... contre le fascisme, contre l'extrême droite, on est un peu...
Essayer de monter un collectif indépendant contre l'extrême droite.
C'est ça.
Voilà, ça se passe en ce moment même, on y était il n'y a pas une demi-heure en fait.
C'est pour ça qu'on c'est assez chaud comme sujet.
Donc tu peux préciser à ceux qui nous écouteraient, étudiants ou personnels, j'imagine que
ah,
ceux qui,
ah,
sont
tout à fait,
ceux qui
hein.
vivent ou travaillent sur le campus, ça se passe à la maison des étudiants en ce moment même, c'est ça,
c'est ça
excusez-moi, d'y aller maintenant, là, n'hésitez pas.
Ça s'est monté dans une espèce de... Comment dire, c'est tout à fait spontané en fait, c'est juste des étudiants qui sont groupés et qui se disent en vrai, si ça passe, si l'extrême droite passe, nous étudiants, associatifs, syndicalistes ou même consommateurs personnels de la MDE ou des activités associatives de la maison des étudiants ou même personnels, on est sacrément dans la merde.
Ouais, et notamment, d'après ce que j'ai compris, le festival de mixité sur le campus Lille 1 serait menacé par le FN au pouvoir. C'est plus ou moins ce qu'on nous avait dit en réunion.
Enfin, exact.
C'est assez, c'est pas la joie comme on dit quoi.
Alors sur ce point-là, je pense qu'on va pouvoir continuer. Je pense que accessoirement, si le Front National arrivait au pouvoir ici ou ailleurs, c'est vrai que le festival mixité ne serait ou comme la politique de l'université, comme l'IDEX, parce qu'on met l'IDEX dans la balance, on met tout dans la balance, ça serait peanuts, ça serait pas grand-chose par rapport aux conséquences qui pourraient être lourdes.
Oui, tout à fait. Oui.
Pour autant, et il n'est pas inutile, on pourra en discuter, de cette question du Front républicain dans les conditions où il se fait.
Alors,
est-ce que c'est encore un Front républicain? Quelle est la nature du Front républicain?
C'est un Front républicain.
Son histoire. Et justement, sur cette position-là, encore une fois, de dire aujourd'hui, en l'état des forces en présence, et du second tour qui se présente dimanche, il y a beaucoup de leçons de morale qui sont envoyées auprès des citoyens. Ça vaudrait le coup sans doute de tempérer,
oui.
De dire quand on en est rendu là, à la limite, à un moment donné, il faut peut-être arrêter aussi de tout faire peser en disant maintenant, vous votez à droite, rappelons-le quand même. Parce qu'il faut quand même dire les choses, hein, Xavier Bertrand, Éric Woerth, toute la clique là, des maires, en tout cas en région, des maires, Lambersart, tous ces maires là, je veux dire, c'est Cumulard.
D'Aubresse, ouais, pour Lambersart.
D'Aubresse, voilà. Cumulard et compagnie en tête de liste de la droite dans le Nord, Éric Woerth pour la Picardie, c'est. Mais je veux dire, sur des positions d'une droite extrême, comme le dit la CGT, une droite sans décomplexer, comme ils disent eux-mêmes.
Ah oui, tout à fait. Oui.
À un moment donné, à chacun, accessoirement plus qu'on parle de politique, Mélenchon l'a dit, et je préciserai la position de la CGT, mais à chacun de décider de son vote en âme et conscience. Mais il est plus que temps de cesser les leçons de morale, parce que c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup.
Oui, tout à fait. En plus, en ce moment, on voit des dérives sécuritaires du gouvernement PS qui nous dit d'aller voter pour faire barrage contre le FN et le fascisme. Je ne dis pas que ce gouvernement, c'est du fascisme actuellement, mais ça s'en approche pas moins quand même.
Ils rivalisent tout de même avec certaines idées programmatiques du Front National.
Exactement.
La répression du mouvement social en ce moment, on en parlait dans une émission précédente, on atteint un niveau assez aberrant depuis que l'état d'urgence a été prononcé, depuis l'arrivée de la COP21 à Paris, toutes les manifestations brimées, 317 personnes qui sont parties en garde à vue il y a pas 10 jours de ça, pour arrêter simplement manifester pour une autre politique écologique. Bon, à vrai dire, voilà l'ultimatum que nous pose le PS et par là même les Républicains, qui sont un peu leur némésis, leur meilleur ennemi, vous voyez. Nous, ça nous paraît un peu aberrant, vous voyez. De toute façon, en tant que syndicat, on n'est pas là pour donner des consignes de vote. On est juste
fait,
là pour, on est surtout là pour appeler à la résistance.
La résistance syndicale face au fascisme.
Ouais. Sur des positions parfaitement claires. Et je le redis pour la CGT, puisqu'il se trouve que le Front National, non pas à piller, mais elle est allée taper dans les revendications de la CGT pour établir son programme. Je pense à la retraite à 60 ans, qui a fait débat. Il y a là-dessus pas de problème. Les revendications de la CGT ne sont pas une propriété intellectuelle de la CGT, bien entendu. Elles sont bien là pour que les forces politiques en présence s'en saisissent et en débattent.
Si elles sont diffusées, c'est une bonne chose.
Voilà.
Mais bon,
Et que ça soit des forces politiques d'extrême droite qui saisissent des revendications de la CGT, évidemment, et c'était ça le sens de ma mise au clair au début, ne permettant rien de dire que la CGT pourrait être, de près ou de loin, perméable aux idées nauséabondes de l'extrême droite et du fascisme, puisqu'il s'agit bien de ça. Mais, encore une fois, à un moment donné, le mouvement syndical, s'agissant là de la défense des travailleurs, la CGT est très attachée à la liberté de manifester, puisque là, elle est clairement limitée
fait, oui.
En ce moment. Et ça a été dit, redit, il y a un comité du Comité confédéral national qui l'a exprimé au lendemain des attentats du 13 novembre, qui précisait bien cette position que, oui, c'est bien beau tout ça, mais les attaques du patronat contre le monde du travail, elles continuent et ne se sont pas arrêtées au 13 novembre, malheureusement, et que, évidemment, le monde du travail, lui, revendiquait le droit de continuer à manifester. Mais, bien entendu, il faut constater aussi que les travailleurs en ce moment sont immensément perdus dans tous les côtés, qu'à force de prendre des coups, ils savent plus nombreux, ils sont nombreux à ne plus savoir de quel côté se tourner, que nous avons du mal à les mobiliser effectivement dans la rue, et c'est aussi un constat d'échec de notre côté,
parce que les attaques viennent de toute part aussi, forcément, quand elles viennent du fondamentalisme islamique ou qu'elles viennent du capitalisme ou qu'elles viennent
du fascisme
comme on l'expérimente en ce moment, on sait plus où donner de la tête en fait.
Ce sont des attaques de nature différente, ça,
oui,
c'est un point important, et pas question de mettre tout dans le même paquet. Mais en effet, les travailleurs sont dans leur majorité sans doute assez désemparés, perdus, en effet, et reconnaissons quand même que cette fin 2015 est profondément crépusculaire. On en est à une situation, il faut se rassurer, hein, quelque part, sans vouloir tout peindre en rose. À un moment donné, l'émancipation des travailleurs, elle ne s'arrêtera pas. Et c'est ni des attentats, ni un Front National si élevé qui l'arrêtera. Mais par contre, ça peut la ralentir très fortement, bien sûr. Et qu'à un moment donné, on peut comprendre. Et que la CGT, elle, appelle les travailleurs à exprimer leur colère, non pas par un bulletin Front National qui, évidemment, ne mène à rien, mais bien par des manifestations,
social,
sortir dans la rue.
Tout à fait.
Le droit d'exprimer la grève, c'est dur, la grève, hein, perdre une journée de salaire en ce moment. Donc, il y a d'autres. C'est pour ça qu'il y a eu des mouvements, je pense, au 5 décembre, où c'était en soutien aux travailleurs d'Air France qui sont licenciés.
À Lille, il y avait un rassemblement.
Scandaleusement, il y a eu un rassemblement à Lille sur l'heure du midi pour permettre aux travailleurs d'y aller. Sans faire grève, ça fait partie de ces
mouvements. Rassemblement de soutien pour les pompiers.
Les camarades pompiers et des personnels de santé la semaine dernière aussi, qui sont touchés de plein fouet par l'austérité au niveau du département. Alors qu'on est dans un état d'urgence et que les pompiers sont censés être, les fonctionnaires qui gèrent.
Comme disait Jean-Marc tout à l'heure, en fait, l'état d'urgence, l'union nationale, l'union sacrée, la trêve nationale, en fait, on la demande toujours du côté travailleur, mais du côté, effectivement, des attaques du capital, elle ne s'arrête pas, en fait.
C'est tout à fait ça.
Il ne faut pas qu'on lâche de l'autre côté.
Ouais. Alors, ouais. Du coup, on va peut-être passer un intermède musical, notamment avec Les Berruriers Noirs sur Porcherie, qui est un mouvement, qui est une chanson contre le FN qui est particulièrement d'actualité.
Il y a une chanson, mais.
Dans le contexte, elle sonne bien.
Oui, elle sonne bien.
Tout à fait, ouais.
Merci!
Oui, alors donc vous êtes toujours sur Radio Campus dans l'émission Dernière Vitrine. On va parler un petit peu des mouvements, enfin des tentatives de l'extrême droite d'infiltrer les universités, notamment pour les étudiants. Donc on va vous parler un petit peu. Il y avait le FN qui avait voulu lancer un collectif étudiant qui s'appelait le collectif Marianne, qui n'a pas fait grand-chose.
Une habile tentative de récupérer les symboles de la République.
pour... qui était un organe qui faisait pas grand chose, qui était juste la courroie de transmission du FN dans le dans les universités.
Ah, il faut dire ce qui est, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau, ce collectif Marie. C'est monté il y a deux ans, on avait, sur Lille, on avait une personne à Lille 3 qui n'osait pas trop se mouiller parce qu'elle faisait un peu partie du plan de diabolisation du FN et du coup, il ne savait pas trop pourquoi faire. Parce qu'en vrai, à droite, il y a de la concurrence sur les universités en termes d'organisation.
Actuellement, la droite et l'extrême droite universitaire, elles sont représentées au niveau étudiant par la cocarde étudiante, qui est un espèce de mouvement souverainiste qui mélange des gens des Républicains, du FN et de Debout la République, un très très beau mélange, qui se présente à des élections, notamment des élections universitaires. À Aix, ils ont recruté quand même plusieurs centaines de voix, à Aix-Marseille, dans l'université. Et il y avait aussi l'UNI, qui était l'UNI, qui était aussi la courroie de transmission des Républicains, qui avant avait un côté, avait des militants en son sein, qui étaient deux générations identitaires, du beau monde en fait.
Ah, c'était un petit peu la face sombre de l'UNI, qui n'osait pas trop l'assumer, mais qui mettait quand même en position éligible dans des conseils universitaires des personnes de l'organisation extrême droite violente, génération identitaire.
Je pense notamment à Aurélien Verhaeghe, le chef présumé des générations identitaires, dont on a pu voir l'impressionnante intelligence quand il a perturbé le rassemblement en recueillement après les attentats Place de la République il y a deux semaines, et qui était notamment un élu au conseil d'administration du CROUS, un élu étudiant, faut pas l'oublier en fait, qui était un élu de l'UNI.
Remarque, en tant que syndicaliste, ça va nous faire bizarre quand dans les conseils d'administration et les conseils universitaires où on siège, comme il y a des représentants des collectivités territoriales, on va peut-être voir débarquer le FN juste du côté
potentiellement,
des étudiants.
Potentiellement, oui. Mais même si c'est pas des gens qui siègent souvent, mais si jamais le FN passe, en plus des élus étudiants personnels et biats, on va se taper la mère de peine, quoi. Enfin,
mais en effet, bon, qui représenterait au titre du conseil régional, de fait, qui siège dans tous les conseils de toutes les universités, c'est l'occasion de rappeler le rôle croissant de la région au sens politique,
tout à fait,
dans la définition de la politique et dans le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans tous ces domaines. C'est une politique qui est partagée par la droite et la gauche entre guillemets, dans ce cas-là, ou le Parti Socialiste en tout cas, disons-le, pour préciser les choses. C'est une forme de ce délitement du service public à l'échelle de la nation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui était une spécificité française pendant longtemps. On peut rappeler l'esprit de la collation des grades, le monopole de la collation des grades, le fait que ça soit que le gouvernement, enfin pas le gouvernement, mais la puissance publique nationale qui ait la capacité à délivrer les diplômes d'enseignement supérieur était le garant des conventions collectives et donc des salaires des travailleurs, avec la reconnaissance de leur qualification, avec obligation pour le patron de le payer à hauteur de sa qualification, quoi qu'il en pense et quoi qu'il pense de sa gueule. C'est quand même des garanties extrêmement fortes qui sont en train de se déliter avec cette régionalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et évidemment, du coup, on en dit « Ah bah mince, alors voilà, ah bah oui, là voilà, ça va être le Front National, etc. » Oui, mais à un moment donné, il faut aussi se poser les questions. C'est tout cela a été combattu par beaucoup d'organisations syndicales, dont la CGT, qui s'est trouvée bien seule. Et je repréciserai en particulier à l'occasion de l'émission de la CATO, FUPL, donc de cet enseignement privé catholique lillois dans la communauté universitaire.
L'île Nord de France, oui.
L'île Nord de France a été une volonté commune de toutes les forces politiques. Seules les organisations syndicales des travailleurs qui représentaient les travailleurs l'ont dénoncé, et pas toutes encore malheureusement.
Exact.
Redisons-le. Aujourd'hui, après tout, c'est statutaire, rappelons-le, et qu'à un moment donné, il y a un point important qui n'a pas été rappelé, c'est que les élections, là, ces élections avec ce résultat effrayant, personne ne les conteste, ces élections. C'est bien l'expression, il n'y a pas de trucage dans ce bazar-là. C'est ça qui est effrayant aussi, à un moment donné.
Ah oui.
Faut aussi mettre les choses sur la table. Et là, il n'y a pas de... Là, l'extrême droite, pour l'instant, n'a pas encore truqué les résultats. Quand ils seront au pouvoir, peut-être qu'il est... On connaît les méthodes qui sont inquiétantes. Encore que ça n'est pas dans le champ, pour l'instant, de la région. Donc, faut aussi pas sur-imaginer. Ils n'ont pas le pouvoir de police non plus, des choses comme ça. Mais oui, ils seront représentés dans les universités, et ma foi, peut-être qu'ils siégeront à côté de ces curieux mélanges qui, depuis des décennies, hein, dans le monde étudiant, entre droite et extrême droite, ça a toujours été la grande, grande, grande perméabilité.
Ah, nous, on a de la chance parce qu'on n'a pas de GUD, mais il y a des facs à Lyon, notamment.
À Lyon ou à Paris-Assas, notamment. Ouais. Où GUD, bon, qui est quand même un groupuscule assez violent. On trouve pas mal de ces militants dans des mouvements racialistes. Voilà, on a effectivement on a de la chance à Lille de ce côté-là. On a aussi l'Action française qui se renouvelle tout de même.
On est quand même face à une recrondescence et de FN qui commence à diffuser des tracts sur des universités de tôt de matin pour pas se faire virer par des étudiants de gauche entre guillemets. Et l'Action française qui revient en fait. L'Action française universitaire notamment existe aussi. C'était elle avait sorti un espèce de livret qui s'appelait « Tuons tous les gauchismes ». Donc voilà, c'est sympa.
Elle a un peu renouvelé le truc. Ouais. Il y a la semaine dernière, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, l'Action française étudiante a diffusé un tract appelant à débarrasser les universités de la gangrène anarcho-trotskiste. Alors, je sais pas bien qui ça distingue. En tout cas, nous, on peut peut-être, je sais pas, se sentir concerné. En tout cas, on est ravis de savoir qu'on est une menace pour l'université et qu'on gangrène toutes les universités. Parce que vu la capacité dont notre discours est diffusé, j'avais pas l'impression qu'on avait autant de poids dans l'université que l'Action française veut bien nous le donner en fait.
Il y a eu aussi un rassemblement qui a été troublé par un rassemblement à Lyon la semaine dernière qui a été perturbé par l'Action française, qui se sont fait dégager proprement. Enfin, franchement, un rassemblement, c'était quel rassemblement déjà ? C'était je sais plus exactement, c'était un rassemblement en soutien aux réfugiés et en soutien aux migrants. Et du coup, l'extrême droite est venue essayer de foutre sa merde et ils se sont fait dégager par des militants. Je trouve ça normal.
Ah, voilà, moi je suis pas du tout de l'émission, mais
oui, bonjour Christian, voilà, tu peux te présenter quand même. c'est Radio Campus, c'est ouvert,
voilà,
mais
je sais très bien, c'est vraiment pour ça que je suis venu. Et donc, je voudrais simplement intervenir sur la montée du fascisme, hein, en fait, du national-socialisme. En fait, c'est il y a 25 ans de ça, lorsque des militants de la CGT, donc ce qui n'était pas encore Sud, mais l'opposition au sein de la CFDT, enfin, donc, un certain nombre de militants disaient, mais s'il y a une montée du Front National, à l'époque, c'était le père de la national-socialiste Marine, c'était, en fait, lié tout ça. Tout simplement et malheureusement à l'ensemble des reculs de la gauche. Et à l'époque, il y a 25 ans, vous ne pouvez pas vous rappeler forcément, puisque nous n'avons pas forcément le même âge, mais il y a 25 ans...
On peut préciser que Christian n'est plus tout à fait un étudiant. ou un futur, peut-être, dans un recyclage potentiel.
Mais le fait est, c'est que ces reculs étaient liés à la social-démocratie au pouvoir, c'est-à-dire, grosso modo, au gouvernement Bérégovoy. Et donc ces reculs, c'était l'attaque sur les pouvoirs d'achat, l'attaque sur les droits des salariés, l'attaque sur les droits politiques, l'attaque sur les libertés individuelles et collectives. Et grosso modo, ce qui avait construit la République en 1945, ce qui avait construit cette République-là en 1945, grosso modo, ce qui avait été forgé et mené par Jean Jaurès, par Jules Guesde, par Léon Blum, qui étaient en fait ceux qui avaient été amenés à faire en sorte que cette société soit un peu différente. Et l'ensemble de ces reculs faisait que les fascistes arrivaient petit à petit à gagner des voix, à gagner sur le terrain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec un parti socialiste et avec des gens qui se considèrent comme étant les représentants du peuple, ce qu'ils n'ont jamais été élus sur les programmes qu'ils appliquent aujourd'hui, c'est ces reculs-là qui font avancer le... Regardez les votes tels qu'ils se sont déroulés. Vous avez des villes qui votaient, il y a encore peu de temps, à 50, 60 ou 70% pour les représentants des travailleurs. En l'occurrence, je ne suis pas au PC, mais pour le PC, je précise quand même, sans qu'on le sache. Et aujourd'hui, on est dans des situations...
C'est des émissions syndicales.
Oui, oui, mais je sais bien que tu allais me le dire. Je m'en doutais que tu allais me le dire. Mais c'est vrai, je suis quand même venu dire, parce qu'en fait, je pense que dans les auditeurs, tout le monde n'est pas au fait, que dans ces villes où il y avait un vote de gauche, dans ces villes où ce vote de gauche existait il y a encore peu de temps, c'est un vote fasciste qui est arrivé. Et c'est un vote fasciste parce que les socialistes, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ont été amenés à reculer, mais de façon telle qu'effectivement, les gens dans une situation ou de précarité, ou d'extrême pauvreté, ou tout simplement ce qu'on appelle maintenant les couches moyennes, sont dans une situation de rejeté totalement. Je vous laisse. Je vous laisse continuer votre émission. Je vous souhaite bon courage parce que ne vous inquiétez pas, même si je suis un peu âgé, je continuerai d'être dans vos luttes.
Pas de problème. En tout cas.
Merci Christian. Ça, juste très rapidement et lire un extrait quand même des. Tu as parlé de la CGT dans la région, donc l'Union départementale CGT du Nord, dans un communiqué de cette semaine, donc d'il y a quelques jours, écrit dans ces conditions. Des plus difficiles pour les populations, et après le séisme historique des élections régionales de ce dimanche, discourir sur l'appel au front républicain ne peut suffire à convaincre. Le Front National est une imposture sociale, il se nourrit de tout cela en se présentant comme hors système, n'ayant jamais gouverné, et il a su trouver à ce titre, entre autres, un bouc émissaire facile avec l'immigré. C'est la faute à l'immigré. L'irresponsabilité et la trahison sociale des dirigeants politiques des différents gouvernements successifs, avec la complicité des médias, ont conduit à une exaspération et à une situation de désespérance. L'abandon politique des premiers responsables du PS, en plus d'assassiner les partis politiques de gauche, concourt à l'enfouissement du mouvement social. Et la conclusion est, pour la CGT, il ne peut y avoir de trêve sociale. L'Union départementale des syndicats CGT du Nord appelle l'ensemble de ses syndiqués à travailler à l'unité la plus large des salariés, des retraités et des privés d'emploi pour prendre leurs affaires en main. Voilà, c'est l'essentiel aux travailleurs de prendre leurs affaires en main. L'émancipation des travailleurs se fera par les travailleurs eux-mêmes. Et c'est à rappeler aujourd'hui où, là, pour le coup, sans sombrer dans une démagogie facile, la classe politique et les deux grands partis ont conduit à une catastrophe, à la catastrophe où nous sommes aujourd'hui. C'était en ce sens-là que c'est quelques mots que je voulais rappeler et qui rappellent la position de la société.
C'était bien parlé pour le coup. Je pense qu'on va pouvoir faire une nouvelle courte pause musicale.
Mais ouais, on va peut-être écouter Serge Gainsby, Liberté, c'est ça?
Ouais.
Ok. Donc voilà.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. Cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.
Évidemment, Serge Reggiani sur une magnifique chanson de Moustaki. Ma liberté, c'est bien de, ça montre aussi la relation entre le collectif et l'individuel dans la situation tragique de cette semaine où nous sommes.
Tout à fait.
Que tout est en lien. C'est une très chouette chanson et chantée par des grands anciens, si je puis dire, mais qui font quand même encore un peu chaud au cœur et qui rappellent que des combats collectifs et que le combat syndical et que le cœur du combat syndical depuis fort longtemps, en tout cas depuis 120 ans pour la CGT, puisque nous fêtons nos 120 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais cette année, les 120 ans de la CGT.
Mais joyeux anniversaire.
Oui, merci, mais enfin la CGT est un peu la matrice de beaucoup de mouvements syndicaux en France, et que cet anniversaire et que le mouvement syndical porte dans cette réforme, c'est bien l'émancipation des travailleurs, et c'est la construction évidemment de chaque individu dans le travail, par le travail, parce que c'est un travailleur, parce que sa seule source de revenus et sa seule source de vie, c'est le travail, mais ça ne sera jamais que le travail, et que donc l'enjeu est évidemment de se construire, et que l'objectif est évidemment, je ne sais pas si on peut parler de bonheur pour tout le monde, mais enfin en tout cas quand même quelque part, revenir, effectivement, l'émancipation, le rappel, c'est quand même bien que chacun soit en situation de construire sa vie comme il le souhaite, sans échapper aux tragédies évidemment individuelles, mais en indépendamment des tragédies collectives que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. C'est comme ça l'enjeu, et c'est bien de sortir un peu de temps en temps des chansons.
Effectivement, je te remercie pour cette touche d'optimisme, parce que jusque-là, ces missions paraissaient bien moroses.
Mais c'est essentiel. L'espoir, c'est le moteur de l'envie de lutter. Le jour où nous serons convaincus qu'il n'y a plus rien à faire, mais il n'y aura plus de lutteurs, il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de syndicats, il n'y aura plus personne. Mm-hmm. On est, en effet, on l'a dit, c'est un crépuscule. Mais bon, faut quand même se dire que ça ne saurait durer et qu'à un moment donné, de toute façon, l'émancipation ne s'arrêtera pas. Le mieux que nous puissions espérer, nous, alors nous n'avons pas le même âge, mais enfin, moi, travailleur expérimenté, je veux dire, vous, étudiant, travailleur en devenir, que nous le vivions à un moment donné, connaissions, ce progrès arrivera. Mais c'est vrai que le temps de l'histoire n'est pas le temps des individus et que ça peut prendre quelques mois, quelques années, quelques décennies, voire quelques siècles malheureusement. Et la question est bien de mener la lutte là où nous sommes et en espérant le voir. Mais il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, l'émancipation arrivera. Mais les temps sont sombres. Pour autant, la lutte continue, c'est bien ça, camarades.
Tout à fait. La lutte continue.
Continue en ce moment même à Boulogne-sur-Mer.
En ce moment, oui.
Il y a des camarades qui se rassemblent aujourd'hui même, c'est à l'heure où nous parlons, à Boulogne-sur-Mer, pour dire, comme nous avons dit tout à l'heure, non à l'extrême droite, ou qu'elle soit dans nos conseils régionaux, qu'elle soit dans nos rues, qu'elle soit dans nos luttes, qu'elle soit dans nos quartiers. On ne veut pas aller à l'extrême droite, ni ici ni ailleurs autour de nous, voilà, point. Ça se passe à Boulogne-sur-Mer, il y aura le même rassemblement ce samedi 12 à Lille, à 15h, place de la République, c'est sur les mêmes bases. Vraiment des bases que nous portons largement, nous invitons toutes et tous à vous y rendre en masse, pour que, effectivement, quel que soit le résultat de dimanche, l'extrême droite sache qu'elle n'est pas bienvenue à Lille, en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et ailleurs.
Et pour revenir du coup à la réalité des travailleurs ou des étudiants, il y a quelques autres initiatives de lutte qui sont en cours. S'agissant des travailleurs de Lille 1, nous vous avons parlé de la suppression des postes pour 2016. La moitié des postes prévus sont supprimés en 2016, un peu moins en fait, parce que du coup le début d'agitation a ramené, on est passé de 50 à 37, 38... Voilà. Sans que personne le dise, mais bon, c'est déjà ça. Mais en tout cas, la lutte, évidemment, continue, a été amorcée. Et donc, il y a une pétition qui rencontre un assez joli succès auprès des travailleurs de Lille 1 pour qu'ils affirment eux-mêmes leur protestation contre ces suppressions et appeler auprès du gouvernement à abonder les financements de Lille 1 pour permettre de créer ces postes. C'est en cours.
Une pétition que vous pourrez trouver sur
notre Facebook.
Oh, vous êtes fort, la jeunesse. Nous, on a l'ancienne, nous, on fait les services avec les bouts de papier ou le rue, les entrées du rue. Mais enfin, très bien, c'est très bien, toutes les formes. Donc ça, c'est un point important, ça fait partie. Et vous avez un petit projet pour un conseil d'administration, là?
Ah oui, alors, à Lille 3, c'est la cata, si on peut un peu expliquer ça. Alors, en fait, demain, à 9h...
À 8h30,
pardon, devant la salle des conseils à l'université, l'université d'I3, pardon, pour s'opposer au prochain conseil d'administration. Yvain, tu peux peut-être un peu développer, puisque tu avais regardé un peu les chiffres
du dernier. Oui, parce que le prochain conseil d'administration, comme ça, en décembre, c'est celui qui vote le budget. Et dans le budget, il y a environ, dans le budget de l'université d'I3, donc, il y a environ 600 000 euros en moins dans les dépenses en fonctionnement par rapport à l'année précédente. 600 000 euros, alors je ne sais pas quel... Je ne sais plus quel pourcentage ça fait, mais ça, 600 000 euros, vous voyez, à 5 0, ça paraît quand même assez beaucoup. Et parmi ces 600 000 euros, ça va se répercuter globalement sur les offres de formation et les capacités d'accueil, puisque l'université Lille 3 a prévu d'offrir environ 400 places en moins pour les étudiants que ce qu'elle offrait cette année, alors que même auparavant, cette année, on sait qu'elle est déjà bloquée. Les capacités d'accueil sur pas mal de filières. Ça va se répercuter notamment dans les filières de langue en LLCE et en psychologie, si je ne m'abuse.
Et en histoire aussi.
Et en histoire, effectivement.
Alors, le problème avec les capacités d'accueil, c'est que c'est de la sélection déguisée, en fait. Quand on nous explique, en fait, quand des présidents d'université, quand des gestionnaires des universités nous expliquent que ce n'est pas de la sélection, que ce sont des capacités d'accueil, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à dire pourquoi ce n'est pas de la sélection. Quand on met un nombre de places pour des étudiants qui rentrent dans une filière, pour moi, ça s'appelle de la sélection sur dossier, en fait. Même, c'est même pire que sur dossier, parce qu'au début d'année, c'était totalement au hasard.
C'est premier arrivé, premier servi.
Premier arrivé, premier servi, tout
à fait. Pas sur dossier, mais effectivement, il faut bien comprendre une chose, c'est que la sélection à l'entrée des filières universitaires de licence, elle est illégale, en fait. Et du coup, elle est illégale comme telle, sauf qu'effectivement, dire... Oui, la sélection est illégale. Il n'empêche que nous ne pouvons pas cette année nous permettre d'accueillir plus de 400 étudiants pour cette licence. Donc, on va la fermer aux nouveaux arrivants. Bon, si on n'appelle pas ça de la sélection, je ne sais pas comment appeler ça, en fait.
Mais en fait, en M2 aussi, il y a de la sélection. Ah, mais elle est aussi considérée illégale. Mais en fait, c'est une pratique que plein de profs utilisent pour ne pas se retrouver avec 30 ou 40 étudiants dans leur cours parce qu'il n'y a plus de moyens pour gérer des TD à 30 ou 40 en licence ou à 30 ou 40 en master, parce que en fait, voilà, il y a plus de moyens, en fait.
C'est ça, on en revient toujours au même sujet, l'argent.
L'argent,
le nerf de la guerre.
Bah, voilà.
Alors, un point après, enfin, évidemment, c'est la volonté de conserver un service public d'enseignement supérieur financé de qualité, etc. C'est bien ça l'enjeu. À noter quand même que là, c'est bien la présidente de l'île 3, de la même façon que nous, c'est-à-dire que les compétences élargies ont fait que ce sont les présidents eux-mêmes qui, de fait, sont contraints on ne va pas les plaindre non plus, ce sont eux qui ont demandé, en 2007, avant l'élection de Nicolas Sarkozy, à passer aux compétences élargies. Donc Nicolas Sarkozy a eu beau jeu de dire « Moi, ce que j'applique avec la loi Pécresse de 2007, c'est ce que m'ont demandé les présidents d'université. » Et c'était tout à fait vrai. Ils l'ont eu. Et aujourd'hui, ils pleurent en disant « Bah oui, mais du coup, on n'a pas... » C'était écrit. La responsabilité... C'était écrit, toutes les organisations syndicales l'ont expliqué. L'ont démontré, on est exactement dans cette situation. Et donc là, petit à petit, il y a la sélection se met en place. Alors, on tourne autour du pot, vous l'avez parfaitement dit. On dit, alors voilà, les premiers arrivés, premiers servis, on peut tirer au sort, hein, pourquoi pas.
Certaines universités, voilà. ça arrive pas
après,
encore à Lille, mais dans les filières...
À Lille 3, ça, c'est arrivé en début d'année.
C'est exact, oui.
Après, il y a évidemment la sélection, par les compétences, n'ose pas encore s'afficher comme telle. Rappelons que ça a donné lieu au combat de 86 en particulier, la sélection à l'université. Oui. C'était l'université reste, et c'est pour ça que c'est important, la seule option pour un bachelier qui ne soit pas contrôlé. Les autres, les écoles d'ingénieurs, les classes préparatoires sont sélectives, donc c'est important de ne pas sélectionner là-dessus. Il y a la sélection par l'argent qui va finir par tomber, bien sûr. Hein, l'augmentation des frais d'inscription, là, ça tourne beaucoup.
Moment,
là, hein.
Au Québec, où les acquis sociaux sont mis en cause, ça se passe en Afrique du Sud, ça se passe au Chili, ça se passe aussi en Angleterre. En ce moment, il y a pas mal de mouvements étudiants par rapport à ça.
Tout à fait, il y en a beaucoup de luttes. Et évidemment, en France, on tourne autour du pot pour l'instant. Mais il y a eu un rapport parlementaire qui disait, mais alors, est-ce que vous avez bien réfléchi? Parce que ça commence toujours. Oui, mais là, en France, c'est quasiment gratuit, donc on va augmenter, mais pas beaucoup. Rassurez-vous. Allez. Pas beaucoup.
La Cour des comptes disait 1 000 euros de frais d'inscription.
Voilà, donc c'est pas beaucoup. Là, pour un comptable, c'est pas beaucoup.
1 000 euros, c'est rien.
Mais il y a quand même, du coup, il y a eu dans le rapport, il rappelait que, évidemment, que c'est le début et que surtout, c'est déjà colossal pour tous les fils d'ouvriers qui déjà ont très très peu d'accès. C'est vrai qu'ouvrier, ça m'agace comme terme. tous les enfants de ménage qui ne sont pas friqués et qui, malheureusement, c'est la grande majorité.
Dans leur sens large.
populaire, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas, tous ceux qui n'ont pas assez de fric pour boucler les fins de mois, et ça monte malheureusement, ceux-là, ben, désolé, sortir 1000 euros par an au lieu de... En ce moment, on est à combien? 200 les frais d'inscription?
Alors, normalement, c'est 200 en licence, 300 en master et...
Non, c'est 250 en master.
D'accord. Oui, c'est ça. Mais auquel s'ajoutent, bien entendu, les frais de sécurité sociale.
Auquel s'ajoute la sécurité sociale.
Oui. À titre d'exemple, moi, pour entrer en master 1 à l'université d'Hinin, j'ai payé 484 euros.
C'est ça.
500 euros, voilà. Donc, pour dire les choses, voilà.
Du coup, c'est quand même pas mal.
Alors, ça couvre effectivement la sécurité sociale, oui. les frais d'inscription qu'on peut... Bref, ça couvre ça. C'est déjà une somme à sortir en une fois. Voilà. Passer à 1500, c'est pas beaucoup. Oui, mais pour le sortir... Et puis ça, c'est pour un enfant. Quand on a deux, trois, parce que...
Oui, non, j'ai mes deux frères et sœurs qui sont aussi dans le supérieur.
Voilà. Là, on arrive déjà, on passe de 1500 à 5000. Mais 5 000 euros rappelons.
Sur un budget de ménage annuel, c'est colossal.
Sans aller chercher très très loin, le SMIC, il est autour de 15 000, 16 000, 17 000 euros annuels. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est un tiers de. Et à part ça, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc ceux qui disent que c'est pas beaucoup, évidemment, déjà, on sait qu'ils sont pas au SMIC ceux-là. Il y a pas de problème.
Alors, ça, oui.
Mais ce sont des choses à rappeler. Alors oui, il y aura les bourses, il y aura les machins, ceci, cela. Mais
Moi, je suis plus boursier cette année, par exemple. Avant, j'étais boursier. Enfin,
ça fait une grosse différence.
Voilà, ça fait une différence sur le portefeuille.
Et le fait que la responsabilité repose dorénavant sur la responsabilité des présidents et non plus du ministère de l'enseignement supérieur et donc in fine du Premier ministre et du président, ça change énormément de choses, et ce qui fait que nous avons, au lieu d'avoir un combat à mener contre un adversaire identifié et que partout en France toutes les universités soulèvent personnel ou étudiant, on se retrouve avec 80 petits combats qui sont décalés dans le temps parce que chacun mène sa petite, et effectivement tout cela est noyé dans une masse, et c'était évidemment l'objectif politique de faire sauter la soupape, cette soupape d'un mouvement étudiant, la hantise. Rappelons que le dernier mouvement, ça remonte à loin, 2006, CPE qui a gagné, qui a été victorieux, hein, s'entend.
Oui, mais... dernier mouvement victorieux, oui, d'accord.
Voilà, c'était plus large que le mouvement étudiant, c'était aussi le mouvement de tous les précaires, les jeunes diplômés.
Les travailleurs y ont participé également, mais bon, mais c'est vrai que c'était aussi
un mouvement de jeunesse.
Et qui est la hantise, et donc en cette responsabilité, compétence élargie des universités a permis, en grande partie, de faire sauter cette soupape qui était leur hantise.
On va peut-être faire une pause musicale. Peut-être qu'on va mettre La fin de leur monde d'IAM. Et après, on continuera à parler un petit peu des problèmes à l'université. À l'université, pardon. Voilà.
Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les pères, y'a trop de mères en sueur. Quand les fusils de la bêtise chantent le même air en cœur. Le mangeur d'âme à chaque repas, ça boive de nos rancœurs. Je l'entends toutes les nuits, l'as des fantômes qui la hantent. L'as de leurs complaintes tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine constamment ensemencée, ou pas cadencée quand ce dernier chasse le vent hors des plaines. Rien n'a changé depuis où je vis. Juifs, catholiques, musulmans, noirs ou blancs, fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Comme ces orages dans nos semelles, à nos larmes et leurs chocs. Sol aride dans l'uranium a volé l'âme. Je pas d'une ville aussi plus grand que la surface habitable. Même si paraît que de l'autre côté tout est plus calme, plus stable. Je veux pas qu'après le jour J les survivants survivent sous néant, trop proche du néant. Car le soleil les prive de rayons, les artères pleines d'amère comme un caddie au géant. On charge à la sortie, c'est tout dans les dents. Je crois que c'est dans l'air du temps, chacun cherche son bouc émissaire. Ouais, d'une simple vie ratée à l'envoi d'une bombe nucléaire. L'amour manque d'air dans leur monde, nous on suffoque, tout on supporte. Ça pressurise et c'est les psys qui vont exorciser. Que quelqu'un me dise si j'ai des chances de voir enfin la paix exigée. Qu'un jour les abrutis s'instruisent, perchés sur ma plume, j'attends ce moment, observe ce bordel. De petites flammes montées au ciel, pour elle j'ai saigné ce gospel. Eras barre à tire d'elle, l'as de la sève qu'on tire d'elle. On clame tout ce qu'on aime, mais aucun de nous n'est fidèle. Jalousie et convoitise se roulent de grosses pelles. Quand les problèmes viennent, on règle ça à coups de grosses pêches. Et pendant ce temps-là, certains amassent des sous par grosses bennes. Devine qui est-ce qui creuse, mais avec des plus grosses pelles. Quand est-ce qu'on y arrive, là où le bonheur désaltère, où le futur se construit, sans cri, sans mec à terre, ni le centre en fuite, rien sur le compteur gère. Et finalement conscient qu'ici on n'est que locataire. Tu pars d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution. On aurait dû le rendre comme on nous l'a donné. Clean, sans tache et innocent comme un nouveau-né. Seulement les nôtres meurent de faim en Afrique. Et y'a pas assez de fric pour eux. Alors la dalle faudra la tempérer. Des hommes tombent sous les rafales racistes, mais on peut rien pour eux. Alors les balles faudra les éviter. Le cul devant la télé, occupé à rêver. Le doigt posé sur la commande, on se sent exister. On râle, on gueule, on vote, espérant que ça va changer. Maîtresse des barricades, et tu les verras tous hésiter. Garni d'incompréhension et de stèles géantes. Le globe rêve de compassion et de bourgeons renaissants sur ses branches. Les mêmes qu'on laissera crever un soir de décembre dans le silence. Juste un bout de carton pour s'étendre. Tout le monde a ses chances. De quelle planète vient celui qui a dit ça? Un homme politique, je crois, live de Bora Bora. Pendant que les foyers subissent façon Tora Tora. Mais bon, c'est bien trop bas, alors forcément ils nous voient pas. Paroles, paroles, paroles. Ils ont promis mondes et merveilles, mais les merveilles se sont envolées. Il reste que démons, mais c'est raide à grimper. Et au sommet, y'a que des démons en costume cendré. Et en bas, c'est les jeux du cirque, c'est zaravé. Parce qu'on va se faire bouffer par des fauves qu'ils ont dressés. On note une sévère chute de sang sur la map, une montée d'air noir. Un jour on payera cher pour une bouffée d'air pur. Ici, c'est chacun sa culture, chacun son racisme. Seulement sur fond blanc, c'est le noir qui reste la meilleure cible. Les temps changent, c'est sûr, mais y'a toujours des irascibles. Ils ont le bonjour d'Henri Daron, Mourmet, Kézine, Dine. À l'heure où les gens dînent, y'en a encore trop qui cherchent. Pour eux, pas de 8 pièces, ils crèchent au parking. Tout le monde s'en indigne. Ça dévalue le quartier, ça effraie Mémé. Et on sait bien ce que Mémé va voter. Du haut de leur tour de vis, droite comme la tour de Pise. Jumelles sur le pif, ils fractionnent, divisent à leur guise. On s'étonne ensuite que ça finisse en patricide. Car tout ce qui compte, c'est de gonfler les commandes de missiles. Vive la démocratie, celle qui brandit la matraque face à des pacifistes. T'es pas d'accord, on te frappe, multirécidiviste. C'est jamais cela qu'on traque. Ils vivent en haut des listes et mettent leurs tronches sur les tracts. Ce monde agonise, vu ce qu'on y fait, c'était prévisible. Comme la goutte sur le front, dès que la merde se profile. Mais la peur atrophie les cœurs, peur de tout ce qu'on connaît pas. Alors on se barre de préjugés débiles. De partout les extrêmes dominent en prime time. À chaque fois qu'ils déciment une famille. Et bien avant ces régions où sévit la famine. Image trop crue pour un bof devant sa viande trop cuite. Lui qui croyait que l'euro ferait beaucoup d'heureux. Pour les vacances faudra attendre un peu ou gagner au jeu. Mais là c'est pas trop l'heure. Demain très tôt y'a le taf. Comprends ce monde pas trop vite. Aucune chance qu'on le rattrape. Sur la route des principes ils ont mis des pièges à l'eau. Des gilets dynamites et des scuds y'en a un peu partout. Faudra faire gaffe aux mines.
Vous êtes toujours sur derrière la vitrine, derrière la vitrine, je vais y arriver, l'émission intersyndicale de Radio Campus avec la CGT, les suivis étudiants. Alors, nos camarades de la CGT apparemment sortent juste d'un conseil particulier qui est pour parler des conditions de personnel, conditions de travail des personnels. La CHSCT, c'est la commission hygiène, sécurité et conditions de travail. C'est une instance de l'université. Nos camarades peuvent nous en parler, détailler un petit peu peut-être.
Oui, il se trouve qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, qui est une instance qui existe dans n'importe quelle entreprise également, publique ou privée. Et il se trouve effectivement, il avait lieu ce matin, donc c'est toujours l'occasion de parler à la fois de grandes stratégies ou de grands projets, de déploiement de grands projets. Je pense en particulier, par exemple, le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui était un peu une usine à gaz colossale décrétée par la voie réglementaire. Et là, on se dit, où est le travail? On est donc dans ce que certains théoriciens ont parlé un peu du prescrit, quelque part. C'est l'organisation, on a l'impression d'un travail magnifiquement organisé, d'une organisation du travail parfaitement huilé, où chaque rouage s'inscrit dans celui des autres magnifiquement bien. Et malheureusement, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Le but du CHSCT, c'est de remettre un peu de travail réel dans ce que l'administration va essayer de ne présenter que comme un idéal qui représente le travail prescrit et qui, évidemment, ne correspond en rien, puisque certains ont rappelé que si le travailleur se contentait de faire le travail qui lui était prescrit, tout s'arrêterait. La société s'arrêterait de travailler. C'est-à-dire que chaque travailleur n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à bien comprendre. Et les CHSCT sont l'incarnation de cette réalité du travail partout, hein, partout, partout, partout. Les travailleurs n'attendent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils le font d'eux-mêmes. Et heureusement, naturellement, parce que ce sont des êtres humains intelligents, doués d'intelligence, dotés d'intelligence, et qu'ils sont attachés à leur travail, à ce que le travail soit bien fait. Le bon travail, et que c'est au cœur de chaque travailleur. Mais l'avantage de ces instances, loin des CA, c'est beaucoup moins sexy hein, que les conseils d'administration, hein, les CHSCT, ça se voit aussi. Non, enfin globalement. Alors,
c'est vrai que c'est un petit peu l'ombre, la face ombreuse de l'université. Ça va pas en fait.
Je préciserai quand même, là pour dire les choses tranquillement, À Lille-1, les instances se tiennent dans de bonnes conditions matérielles, et que ce soit un conseil d'administration, un comité technique, un CHSCT ou que sais-je, global, il y a toujours un accueil de la part de l'administration qui est correct. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un peu de café, il y a des petits gâteaux, il y a de l'eau, il y a des jus de fruits. Ça, et quelles que soient les instances, il n'y a pas de différence dans la nature de l'accueil. C'est un point. Non, c'est important parce que, par exemple, au niveau du ministère, on se dirait, mais quand même là, ça doit être autre chose. Là, c'est. Allez, l'épicerie fine et autres. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire que les instances, et en particulier les CHS, les instances de travailleurs en particulier, c'était comité technique ministériel ou CHSCT ministériel. Les camarades qui siègent dans ces instances ministérielles, donc pour l'ensemble des travailleurs de la France, confirment tous qu'ils sont reçus comme des chiens. Et le mot est faible. Le mot est faible. Dans les petites salles pourries, mal aérées, on les réunit. Et tant qu'on t'a pas éclusé l'ordre du jour, tu sors pas. Il n'y a pas de pause. Tu vas bosser pendant 5 heures. Il y a eu un comité technique universitaire, un CTU, qui s'est terminé à 2 heures du matin.
Oh là 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 là.
Il a commencé à 9 heures le matin, il s'est terminé à 2 heures le matin. Voilà.
C'était quand même 17 heures non-stop.
Exactement. Alors évidemment, là, les travailleurs ont rapproché, mais fallait vous barrer, les gars. Fallait vous barrer, dire, mais foutez de notre gueule. Parce que c'est le cas. Donc, faut se dire que globalement, finalement, l'université Lille-1, c'est bien meilleur. Et il faut le dire tranquillement. Simplement, ce que je voulais dire en CA, c'est que quand on commence à parler de la réalité du travail en conseil d'administration, en général, il y en a beaucoup qui commencent à tordre le nez. Voilà. Oh, bah oui, mais on ne parle pas de stratégie de la recherche, on ne parle pas de carte des formations supérieures, etc. Donc, vous, en gros, les travailleurs, ça va bien, mais il ne faut pas qu'ils la ramènent. Ceci dit, on la ramène. Hein. Heureusement, les représentants des personnels ou des étudiants en CA sont là pour la ramener, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. On le fait partout et en CHSCT. Je voulais juste rappeler, il y a quelques points qui ont été évoqués, s'agissant par exemple des vestiaires et des douches pour les travailleurs des espaces verts de l'université de Lille 1. Le campus de Lille 1 est très grand, donc ça nécessite un travail tout à fait colossal. Et effectivement, il se trouve que leurs vestiaires sont particulièrement mal situés, dans un lieu mal aéré, au-dessus des bagnoles. Donc là, ça a été exposé, et assurément, via le CHSCT, ce problème ayant été acté et confirmé par l'administration, reconnu, nous avancerons sur ces questions-là. Il était question de composantes où les chefs de service ne disent pas bonjour, par exemple, cette violence au quotidien, de dire mais t'es de la merde, toi. T'es de la merde, je te dis pas bonjour. Ben évidemment, donc voilà. Ça peut paraître anodin.
C'est quelque chose qui pèse au quotidien sur le moral du travail.
Mais c'est le travail réel.
Tout à fait, ouais.
Un individu à qui on ne dit pas bonjour, qu'on ne salue pas, donc il n'existe pas, mais c'est vraiment. C'est pour ça que c'est qu'on le considère comme une merde. Et c'est absolument et profondément inacceptable. Il y a eu d'autres points qui vous concernent également, qui a été notifié, constaté dans la déclaration des accidents de travail, c'est l'augmentation des accidents de travail chez les doctorants, qui sont dorénavant des travailleurs reconnus puisqu'ils ont un contrat doctoral. Et cette augmentation a été constatée à Lille 1 sans explication, hein, ceci dit, donc il n'y a pas de jugement là, c'est un fait simplement.
Est-ce que c'est parce qu'on arrive mieux à les mesurer maintenant, ou est-ce que c'est justement parce qu'on arrive de moins en moins à maîtriser le matériel dont on dispose? Toujours une question de budget, peut-être. J'en sais rien.
J'imagine, mais après, j'en suis pas sûr. On peut pas faire des conjonctions comme ça.
En tout cas, l'administration a été interpellée sur cette question-là. Donc, elle a devoir, obligation de poser, de réfléchir et de répondre à cette question. Et le dernier point, c'était un point extrêmement stupide, c'est les chutes au travail. Alors c'est pareil, ce campus est grand, donc on se pète la gueule assez souvent, pas parce qu'il y a du monde et parce qu'il est grand, et ça peut être parce qu'il y a du verglas tout simplement,
mais là bon,
il n'est pas question de bon, là c'est ça peut arriver que ça soit la faute à pas de chance, hein, et c'est tout simplement, c'est au travail, donc c'est un accident de travail, et donc c'est à l'employeur de couvrir les frais inhérents et les conséquences éventuellement sur le long terme, ça c'est le point important. Mais il a été soulevé comment identifier le fait, quels sont les accidents qui sont strictement conjoncturels. C'est le verglas, il faisait froid, il y a eu de la pluie, je sais pas, le travailleur lui-même était peut-être pas ce qu'il faisait, enfin voilà, des chutes structurelles qui peuvent être identifiées comme, là par contre il y en a trois qui se sont pétés la gueule à cet endroit-là, c'est parce que les marches sont glissantes par exemple, parce qu'il n'y a pas d'éclairage, parce que il y a un trou qui n'est pas bien indiqué. Et donc c'est comment est-ce qu'on avance sur ces questions extrêmement simples, mais enfin ça peut sembler bête, mais quelqu'un qui se pète une jambe au travail pour une dalle mal ciselée, c'est quand même important d'avancer sur ces questions-là. Et il a été acté que...
C'est partie de votre quotidien, bien entendu.
C'est le quotidien au travail, c'est le travail réel. Et il a été acté que finalement, sans doute, si tous les travailleurs avaient connaissance des registres santé sécurité au travail et qu'à chaque fois qu'ils constataient que ici il y a une ampoule qui manque, ici il y a une dalle, elle est pas, elle s'est complètement défaite, ici ça glisse, et qu'ils le consignaient à chaque fois, alors sans doute ça avancerait un peu plus vite. Donc là aussi, c'est comment construire une revendication de façon statutaire et légale et avancer sur ces questions-là. C'est l'immersion du travail réel, mais c'est comment, sans faire des grandes révolutions en permanence pour un mec qui se pète la gueule, ceci dit, ne pas considérer ça comme un truc, un non-événement. C'est un événement, c'est quelque chose qu'il faut traiter.
C'est du syndicalisme au quotidien, quoi.
Absolument, enfin, et c'est le cœur du syndicalisme.
Tout à fait.
C'est d'autant plus que quand on t'écoute, on se dit quand même que l'administration est plus encline à considérer ces problèmes qu'à considérer les problèmes plus globaux qu'on peut poser... De notre conseil, là, à part de ce que tu nous racontes, bon, du coup, on est en CHSCT, nous, comme syndicaliste étudiant, on n'y est pas. Mais c'est.
On y est en tant qu'élu élargi, conseil élargi.
Effectivement, mm-hmm. quand certaines questions concernent essentiellement les conditions d'études. Mais là, de ce qu'on a l'impression, en fait, l'administration a l'air plus encline à écouter les problèmes au quotidien, peut-être aussi parce que c'est parti de leur quotidien eux aussi, après, j'en sais rien.
Je pense, oui. Si ça fonctionne mal pour tout le monde, enfin pour les travailleurs, ça fonctionne mal aussi pour tout le monde, d'après ce que je comprends.
Faut bien rappeler qu'on ne peut pas les découpler, ces problèmes au quotidien, des grands problèmes stratégiques. On ne peut pas les découpler. Non. Parce que, à la fin, c'est, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc tout est lié, effectivement. Ben, voilà. Et c'est pas dire que. Les chefs, c'est des méchants, et puis les travailleurs, c'est des gentils. C'est pas du tout ça la question. C'est bien de reposer les questions stratégiques, essentielles de financement, mais par l'intermédiaire du quotidien de tout un chacun. C'est ça le sens et l'esprit du combat syndical, d'obliger l'employeur à considérer ces petits problèmes comme étant collectivement des problèmes de première importance et qu'il doit mettre de l'argent pour le dépenser. Et cet argent qu'il mettra là, eh bien, il sera obligé de pas le mettre, de pas le filer gratos à ses actionnaires ou en l'état pour nous, service public, de ne pas le laisser. Ouais, de ne pas le laisser à l'état, si tu veux. Voilà.
D'autant plus que faut le rappeler, quand certaines universités sont en excédent budgétaire, l'état peut très facilement ponctionner sur la dotation globale.
Comme à Artois, il y a pas longtemps. Ouais.
Ou à Lille 2,
ou dans d'autres.
L'an dernier, ça a été 8,7 millions d'euros qui ont été ponctionnés par l'état, 24 millions à l'université Artois. Donc effectivement, quand on peut se permettre de faire en sorte que cet argent soit utile au quotidien des travailleurs...
Pour les travailleurs et les étudiants.
Des étudiantes, c'est plutôt que reverser dans les caisses de l'État sur une caisse un peu obscure, ça peut s'appeler une victoire syndicale.
Bah, oui, tout à fait. Enfin, c'est l'essence même du syndicalisme. On va peut-être se quitter bientôt sur le générique de Boule là-dedans de MAP.
Voilà, très bien, merci à tous. Un instant avant de lancer les génériques, on peut préciser qu'on vous laisse entre les mains j'ai encore oublié son nom, l'émission de classique, de cette excellente émission de classique sans complexe, voilà. Comme tous les jeudis à 15h, c'est Philippe qui vous mènera tranquillement jusqu'à 16h. D'ici là, bien sûr, restez fidèles à tous les programmes de Radio Campus sur le 106,6 et sur campuslille.com où vous pourrez réécouter cette émission et comme les précédentes
en podcast.
En podcast pendant quelques mois, 2, 3, je ne sais plus. Enfin,
sinon, vous pouvez retrouver sur YouTube nos podcasts aussi.
Nous les archivons afin qu'ils ne se perdent pas dans le temps.
Magnifique, merci à Sud Étudiants. On se retrouve la semaine